Bonsoir. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, s'oppose à toute modification des textes fondamentaux qualifiant le projet de référendum de prélude à la balkanisation du pays. Dans un message publié à Kinshasa samedi dernier à l'issue d'une assemblée plénière extraordinaire, les évêques catholiques ont dénoncé la montée des tensions autour d'un éventuel projet de modification de la Constitution. Selon elle, ce débat se déroule dans un climat pesant, marqué par la peur, les pressions et la répression des voix discordantes, une situation jugée préoccupante car elle pourrait remettre en cause les fondements du pacte républicain. Aussi, la CENCO appelle le président de la République au respect strict de son serment constitutionnel. Elle l'exhorte à privilégier la voie du dialogue et de la légalité pour préserver la stabilité du pays. Cette position des évêques catholiques a de son côté suscité une vive réaction des jeunes se réclamant de l'UDPS à Kananga dans la province du Kasaï central. Et hier dimanche, ces jeunes se sont rassemblés devant plusieurs paroisses catholiques pour exprimer leur désaccord avec la position des évêques catholiques. Quelle lecture faire de cette position de la CENCO sur la loi référendaire et l'éventualité d'un changement de la Constitution en RDC? C'est le thème du débat de dialogue entre Congolais de ce jour. Et pour en parler, nous accueillons ce soir Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Monseigneur Donatien Cholet, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, il y a aussi Amissi Makutano, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national et président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes élu de la ville de Kinshasa. Et puis Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Dans un message publié samedi dernier à Kinshasa, à l'issue d'une assemblée plénière extraordinaire, les évêques catholiques ont passé en revue la situation socio-économique, sécuritaire et politique du pays. Ils parlent d'une nation en péril et tirent la sonnette d'alarme. Les détails de ce message de la CENCO dans ce condensé présenté par Jean Gandou.
Dans un communiqué publié ce samedi à Kinshasa, la Conférence épiscopale nationale du Congo ne mâche pas ses mots. Les évêques décrivent un pays sous pression. La guerre continue dans la partie est du pays, malgré les accords de paix, groupes armés, massacres, populations déplacées et autres. Et pour elles, la situation reste dramatique. Sur le plan social, même constat. Quelques avancées, oui, routes, infrastructures, mais pour la majorité des Congolais, la précarité reste la règle. Mais le point le plus sensible, c'est la politique. À ces sujets, la CENCO s'inquiète de la montée des tensions autour d'un possible changement de la Constitution. Un débat mené, selon elle, dans un climat de peur, de pression et de répression des voix discordantes. Pour les évêques, le risque est clair. Une remise en cause du pacte républicain et une possible déstabilisation du pays. Ils mettent en garde contre tout passage en force. Les conséquences pourraient être graves, alerte-t-ils. La CENCO appelle donc le président de la République à respecter son serment constitutionnel et invite la population à rester vigilante dans le calme et dans le respect des voies pacifiques de revendication. Message central, préserver la paix, l'unité et l'avenir de la République.
Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, comme vous pouvez l'imaginer, Monseigneur, votre message est reçu de façon aussi mitigée. Il y a ceux qui vous soutiennent et d'autres qui ne sont pas d'accord avec vous. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, Monseigneur, ils disent tout de suite que vous faites un procès d'intention au pouvoir. Que leur répondez-vous?
Laissez-moi rire, le procès d'intention, c'est ce que le PPRD nous disait autrefois, et c'est à quoi nous réagissions avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qu'il y avait des signes qui ne trompaient pas. Mais cette fois-ci, il y a des déclarations plus ou moins officielles. Des personnes autorisées qui ont avoué leur intention d'aller dans la direction de changer la Constitution, et ce, malgré les dispositions constitutionnelles contraires.
Mais Monseigneur Donatien Cholet, est-ce que le mot procès d'intention n'a-t-il pas son sens, excusez-moi, puisque vous-même vous dites que il y a des déclarations plus ou moins officielles, donc pas officielles.
Bon, je dirais même officiel, c'est-à-dire quand un secrétaire général du parti au pouvoir parle, c'est officiel. Parce que c'est eux qui ont la majorité. Et quand le Parlement vote déjà une loi fixant les conditions d'un référendum, c'est déjà un début de cette voie.
Oui, mais Monseigneur, puisque vous évoquez l'histoire, si on prend en référence ce que vous évoquez avec le régime passé, il y avait des actions qu'on leur attribuait et finalement, on n'a pas vu ce qu'on leur soupçonnait, c'est-à-dire un troisième mandat. Il n'y a pas eu présentation du président de l'époque pour une candidature supplémentaire.
Bon, je crois même que contrairement à ce qu'on a vécu en 2018, cette fois-ci, le président a même évoqué cette éventualité. Si la population me le demande, j'accepterai. Et ce que nous espérons et nous souhaitons, c'est ce qu'on a vécu en 2018, certainement, l'appel des pères spirituels les a interpellés.
Monseigneur Donatien Cholet, votre message que j'ai devant moi, hein, qui est à peu près selon la manière d'imprimer, en 3 ou en 4 pages, votre message visait-il quelqu'un de particulier ou pas? Parce que dans votre message, justement, vous interpellez le président de la République, mais nulle part, vous interpellez le gouvernement, les élus qui ont justement voté la loi que vous critiquez, que la CENCO critique, ou encore nulle part. Vous n'interpellez l'opposition qui est aussi un acteur, une partie prenante dans cette réalité qui est vécue en ce moment.
Bon, c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas interpeller les députés qui ont déjà boutiqué leur affaire. Maintenant, la loi étant déjà votée, et c'est le président de la République qui peut encore faire quelque chose pour la bloquer.
Donc, on peut considérer que ce message, au-delà de l'évaluation des autres aspects du pays hein, qui sont repris dans ce message, votre message voulait vraiment parler directement ou alors exclusivement au président de la République.
Oui, parce qu'il a encore un rôle à faire, à jouer dans le bon sens. Entre-temps, c'est les noms de ceux que les députés nous ont trahis.
Comment cela, Monseigneur Cholet?
Comment ça se passe? Dans la mesure où ils sont là pour défendre la Constitution, et une loi ne peut pas être votée contre l'esprit et la lettre de la Constitution.
Et autre détail, Monseigneur, vous me direz si c'est peut-être notre regard qui n'a pas bien percé les choses. Pourquoi, dans votre message, tous les évêques présents signent et pas l'évêque de Bouta? En tout cas, le document que moi j'ai.
Ah voilà, vous avez raison. L'évêque de Bouta était présent. Il était dans la liste des signataires, mais il a quitté les réunions avant la fin. Dans la liste circulait pour les signatures, et lui était déjà parti, il avait une urgence, son avion devait aller plus tôt.
Monseigneur Donatien Cholet, nous restons avec vous dans ce débat pour éventuellement des compléments d'explications et la réaction à ce que vos co-débatteurs pourraient dire. Amissi Makutano, député national et président de la Ligue des Jeunes de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation, vous êtes élu de la ville de Kinshasa. Votre réaction au message des évêques?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Premièrement, je ne peux pas laisser passer... Hein, quelques dires de Monseigneur Abbé Cholet, je n'ai pas à lui apprendre. Mais en étant un homme de l'Église, il devait opter pour un aspect aussi respectueux à l'encontre des élus du peuple. Il ne peut pas dire que les députés ont boutiqué leur affaire. Ça, je n'ai pas aimé. Et je crois que, à sa deuxième prise de parole, il peut revenir pour présenter les esquisses à ces élus nationaux qui ont fait correctement leur travail. En suivant ces communiqués, nous avons compris qu'il y a eu les sentiments d'un groupe de gens qui se sont réunis, je crois, à 6, qui d'ailleurs ne représentent pas la population congolaise. Ils sont 26. Et tout ce qui est ressorti dans leur communiqué, c'est leur point de vue. Et c'est la preuve à suffisance que la démocratie est en train d'être vécue en République démocratique du Congo. C'est de leur choix. Nous sommes plus de 120 millions de Congolais. Nous avons vu la CENCO, l'ECC organiser des rencontres entre ceux dont eux-mêmes faisaient le choix, c'est-à-dire de l'opposition ou de la majorité, pour essayer un peu de légitimer leur communiqué, parce que ça existait déjà. Et on a compris les jeux. Ils n'ont pas changé.
Comment vous savez que ça existait déjà?
Non, ça existait déjà.
Oui,
la position de la CENCO a toujours été connue, et ils ne se sont pas dérobés à la règle. C'est de leur choix, c'est de leur bon gré. Et là, nous les concédons parce que aujourd'hui, le président de la République démontre en suffisance qu'en République démocratique du Congo, il y a la démocratie qui sévit. Parce que si nous demandons de quel droit Cholet peut prendre, Monseigneur Cholet peut prendre la parole en engageant même toute une population.
Il a le porte-parole des évêques.
Il n'a pas qualité.
Dans cette émission, il est le porte-parole des évêques et le message est le message de la CENCO.
La population congolaise n'est pas évêque. Il est porte-parole des évêques et non porte-parole de la population congolaise.
Mais le message
moi
n'est pas.
Moi qui vous parle.
Le message n'est pas de monsieur, de monseigneur de Nations Unies.
Moi qui vous parle. Je peux parler au nom de la population.
Ce serait bien que vous vous adressiez aussi à la CENCO.
Non, quand je parle au lecteur, celui qui a lu le communiqué, il représente un tout. Il représente cet ensemble de la CENCO. C'est pourquoi j'ai dit, ils n'ont pas été mandatés par la population, que ce soit Monseigneur Cholet, que ce soit la CENCO en général. Et donc, ils n'ont pas cette qualité et ils ne peuvent pas se prévaloir de cette qualité.
Mais est-ce qu'ils peuvent parler comme population, justement?
Mais bien entendu, là, on les conseille, c'est pourquoi j'ai dit, c'est un point de vue d'une population qui n'engage pas l'ensemble de la population congolaise. Ça, c'est de un. Il a fait la comparaison entre le régime passé et ce qui se passe pour l'instant. C'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, nous devons vous rassurer. Les gens-là qui avaient donné les mots d'ordre, Soko Moni Sangona Soutane Kangaye, ils sont ensemble avec eux aujourd'hui. Ils sont où? Les PPRD et les restes, on les voit confinés ensemble dans leur histoire de 1664. Ensemble avec la CENCO. Ils savent. Mais dire que non, nous avons combattu à son temps et aujourd'hui ce n'est pas la même chose. Le président de la République...
Leur message principal, ils disent que, ils interpellent le président de la République et donc le régime en place de ne pas changer la constitution.
Non, je venais par là. Ce qui est vrai, il y a des aspects qu'on doit prendre en compte. Il y a le changement, il y a la révision. À ce qui concerne la révision constitutionnelle, il est très bien connu, il y a quand même des modalités. Comme il y a la guerre, il y a tout ce qui va avec, on ne peut pas réviser la constitution pendant cette période. Mais ce qui s'est dit, ce que moi je vais dire, devant votre micro, c'est les changements que nous soutenons. Nous soutenons le changement de la Constitution. Est-ce qu'il peut me dire...
Vous UDPS ou vous élu de l'Union Sacrée?
Je crois que vous m'avez invité en tant qu'amici et je dois argumenter comme tel. J'ai dit, nous voulons le changement. Ça, j'ai dit au pluriel pour le respect. Mais celui qui prend la parole, c'est M. Amici. Nous disons le changement de la Constitution. Est-ce qu'on peut nous dire, dans cette Constitution, il y a un article où on dit on ne peut pas changer la Constitution? Je crois que eux, ce sont des gens qui ont eu quand même le temps de beaucoup étudier, je sais. Est-ce qu'ils peuvent nous dire, lors du passage de la 4e République en France, la Constitution a été changée pourquoi? Il y avait quelle modalité? C'était en 1945-46. Et en 1958, pour passer de 4e à 5e République, qu'est-ce qui s'était passé? Ce sont des réalités politiques qui s'imposent. Aujourd'hui, notre pays, par rapport à ce que nous avons vécu depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est en République démocratique du Congo où on a vu un premier ministre limoger un président de la République. C'est dans ce pays. C'est dans ce pays où nous avons vécu, où un premier ministre, un président de la République qui prend une ordonnance. Mais il y a un ministre qui refuse justement de notifier les gens qui ont été nommés par une ordonnance présidentielle. C'est dans ce pays. C'est dans ce pays où nous avons assisté. Où les gens, je ne sais pas moi, si peut-être l'histoire peut nous rattraper, où ils ont changé la constitution de deux tours à un tour. Maintenant, pour mettre en place les institutions, ça nous prend 8 mois, 9 mois.
Amici Bakoutano, chers députés, les évêques, et c'est la dernière phrase de leur message, disent, entre autres, pourquoi ils découragent le changement de la constitution. Ils disent, je les lis, respecter et faire respecter l'ordre constitutionnel afin d'épargner le pays d'une crise pire que celle que nous avons actuellement.
C'est leur point de vue. Ça, c'est leur point de vue.
Ils mettent en garde contre quelque chose de dangereux qui pourrait tomber sur le pays.
Comment ils peuvent mettre en garde? Est-ce que nous avons une institution que nous appelons la CENCO en République démocratique du Congo? C'est leur point de vue en tant que population.
Mais vous ne pensez pas qu'ils ont un peu raison?
Ils n'ont pas raison.
Parce que si les esprits commencent à s'échauffer...
Ils n'ont pas raison.
Et que le pays se trouve dans une crise culturelle ou même communautaire,
ça peut aller loin. Monsieur le journaliste, ici, il faut d'abord jeter des fleurs sous la gouvernance de Félix Tshisekedi, président de la République. Aujourd'hui, la démocratie, c'est vie chez nous. Vous voyez, cette question, ça n'a pas été caché. C'est une question qui a été mise sur table. Les scientifiques, tout celui qui connaît un verbe, un article, qui peut composer une phrase, s'invite à ces débats. Ça vous fait voir que la République démocratique du Congo vit valablement dans un état de droit. Et par conséquent, il n'est pas normal qu'un groupe de gens puisse considérer comme si leur parole pouvait être considérée comme une parole d'évangile où tout le monde doit dire Amen. Non. Il faut laisser...
Nous allons partager la parole tout à l'heure, mais on aimerait chuter avec vous que vous puissiez donner quand même très rapidement les raisons pour lesquelles, pour vous, le changement est incontournable. Qu'est-ce que vous souhaiterez, par exemple, changer immédiatement dans cette constitution et son résultat positif pourrait être quoi?
Bon, je crois que cette période ne peut pas être comparée avec la période passée où on nous a amené le Bosch déjà écrit quelque part. Non. Le président de la République en 2024, il a émis le vœu de voir toute tendance, opposition, majorité, société civile, les penseurs, tous ceux qui détiennent quand même une connaissance à la matière, de pouvoir se retrouver tout autour d'une table. C'est pour discuter République. Ce n'est pas pour discuter pour un individu. Mais aujourd'hui, on veut particulariser les débats. Donc, on peut considérer qu'aujourd'hui, qu'il y a des gens qui refusent de réfléchir et ils veulent jeter des opprobres à ceux qui veulent réfléchir aujourd'hui pour le devenir de leur pays. On doit évaluer 20 ans après la constitution que nous avions adoptée, même si nous n'avons pas adopté cette constitution sous le mode référendum organisé par l'ancien rebelle qui est aujourd'hui chez les M23, et bien entendu, il a tapé la poitrine en disant « c'est ma constitution ». Et là, il énumérait même les gens qui ont fait barrage pour que ça ne passe pas entre autres l'Église catholique et la CENCO. Donc, ils doivent tirer toutes les conséquences parce que les Congolais doivent réfléchir sans qu'il y ait des influences
des interdictions. Ouais. Merci à Amici Maputano, tout en rappelant que faisons un débat sans personnaliser les problématiques ou orienter les arguments des flèches contre des personnes particulières. Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, lorsque vous écoutez les uns et les autres, quelle est votre réaction? D'un côté, les évêques qui attribuent au régime actuel l'idée de changer la constitution et d'offrir un troisième mandat à leur candidat, qu'ils présenteront le moment venu, et l'UDPS et la majorité présidentielle qui dit ne pas offenser personne, et s'ils font le changement, c'est tout à fait dans leur droit.
Bon, je dirais déjà que l'Église catholique à Senko est pratiquement dans une forme de continuité. Hein. Si vous suivez la réaction de l'Église depuis 2015, elle se positionne en contre-pouvoir sur la question constitutionnelle, et on peut même historiquement remonter un peu plus loin pour voir que l'Église catholique de manière assez particulière, c'est toujours positionné en cas de pouvoir. Vous prenez le cardinal Maloula, vous prenez le cardinal Mosengo, vous descendez. Il y a une forme d'engagement social de l'Église qui l'a toujours positionné en cas de pouvoir. Et c'est là, elle n'a pas commencé avec le régime actuel.
Mais est-ce
donc, il y a une forme de continuité dans ce que l'Église a toujours fait sur ces questions-là. Et si vous revenez récemment à la crise de 2016, on peut dire que l'Église est plus ou moins cohérente à ses positions de 2016. Maintenant, là où peut-être les choses changent, c'est que les positions des acteurs politiques ont évolué. L'Église, en 2016, était à côté de l'UDPS sur le même combat. En 2026, les positions politiques ont évolué. Et donc, l'Église, dans une forme de continuité, va se retrouver butée à de nouveaux acteurs, mais sur une forme de continuité du combat politique.
Mais est-ce que, c'est, selon vous, c'est une... attitude cohérente, les individus changent, les personnalités entre guillemets combattues ou interpellées changent, mais le ton reste toujours le même, parfois sur les mêmes sujets.
Je pense que l'Église a évolué parce que si vous prenez la posture de l'Église en 2025, c'était davantage médiation, une Église qui voulait jouer le rôle des médiateurs avec le pacte social, et donc même si le communiqué prend un ton ferme et un temps catégorique, on a encore dans les lignes une volonté de maintenir les possibilités de dialogue, et donc une Église qui joue un peu sous deux partitions, à savoir d'un côté la possibilité de dialogue et donc de jouer une médiation, et de l'autre côté le bâton, si on peut dire, la menace protestataire qui a été celle de 2016. Et donc oui, le temps il est ferme, cohérente en 2015-2016, mais en même temps une possibilité de garder un rôle de médiation qui lui sera contesté. Quand vous prenez la posture de l'UDPS, il est clair qu'aujourd'hui l'Église ne saura plus jouer une forme de rôle de médiation face à un régime vent debout et qui ne prendra plus l'Église aujourd'hui comme je dirais une tierce partie neutre, mais qui va forcément le placer comme allié au 64 et donc à la dynamique d'opposition, et donc automatiquement mettre un terme à toute possibilité de rejouer un rôle d'arbitre au sein du pacte social.
Alors, vous avez écouté Mgr Donatien Cholet tout à l'heure, lorsqu'il est questionné pourquoi d'autres acteurs de la vie politique en RDC ne sont pas interpellés dans leur message, notamment les élus eux-mêmes qui votent les lois qui sont critiquées, la classe politique de manière générale et de manière particulière, l'opposition n'est pas interpellée. Est-ce que l'Église n'aurait-elle pas gagné, même si Mgr Donatien Cholet dit que c'est par souci d'aller directement au destinataire, est-ce que même s'il fallait aller directement au destinataire, l'Église n'aurait-elle pas gagné un peu à interpeller, à tirer les oreilles, entre guillemets, un peu à tout le monde, à mentionner les différentes parties prenantes, pour que justement personne ne tire profit du fait que, n'ayant pas été mentionné, et peut-être montré comme ayant raison.
Le choix de la communication de cristalliser sur la question donc présidentielle peut peut-être justifier le choix de l'orientation, même si, et vous avez raison de le rappeler, un communiqué qui aurait responsabilisé les différentes parties aurait donné une posture d'équilibre. Mais le choix de cristalliser sur la question constitutionnelle, et particulièrement la question du mandat, a peut-être orienté le choix du communiqué de l'Église en ciblant ou en responsabilisant particulièrement le président. Et il y a une ligne dans le communiqué où on appelle à sa propre responsabilité devant l'histoire, où on rappelle le rôle qu'il peut jouer personnellement. C'est le souhait de ramener au niveau de la responsabilité personnelle le débat constitutionnel. Ce qui peut être à la fois un piège et avantageux. Avantageux s'il le prend comme une forme d'appel à la responsabilité ou à l'inverse, ça peut radicaliser et donc amener à une forme de, je dirais, de cristallisation de la crise autour des individus. On l'a vécu en durant la transition de 90, où la question d'ego et des personnes a phagocyté le débat. Et donc le ramener au niveau individuel peut être à la fois avantageux, inconvénient, si ça radicalise la personne, et donc on se structurera à un niveau d'opposition entre la personne et Asenko, et c'est ce combat mené au niveau personnel, eh bien, il sera davantage émotif que porté sur les questions de fond.
Merci Christian Moleka. Comme tout le monde le sait, cette émission est aussi pédagogique et accorde aussi une place de choix à la population elle-même directement. Nous avons pris un échantillon ce soir pour essayer d'écouter leur position sur cette question. Mgr Donatien Cholet, secrétaire général à la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko en sigle. Nous allons écouter et vous pourriez réagir juste après cette réaction de notre auditeur de Butembo.
Maître Kambe Sibi wa Merveille depuis la ville de Boutembo. Pour moi, la position qu'a pris la Sengo n'est pas aussi nécessaire. Mais la Sengo devrait voir quelle attitude prendre face à cette question cruciale, étant donné que la mission principale de celle-ci n'est pas de prendre position sur des questions politiques, mais d'évangéliser. Ne voyez-vous pas que le fait que la jeunesse catholique s'oppose à la décision de la Sengo fragilise même l'Église, car la position de cette structure ne fait pas unanimité entre les chrétiens et les dirigeants. Et que même les évêques aussi ont pris cette décision sans consulter les chrétiens. Que devrions-nous donc retenir de la politique de l'Église catholique ou de sa relation avec l'État congolais? Et quel est le rôle de l'Église catholique dans ces pays sur la question politique? Faut-il réviser la constitution pendant l'état de siège à violation de celle-ci ou attendre la levée de l'état de siège pour réviser? C'est pourquoi les évêques devraient prendre l'attitude d'être au milieu du village, à ne pas donner leur position sur cette question, mais prier pour la restauration de la paix au pays, pour qu'ils annoncent bien la bonne nouvelle, pour que le monde ait la paix.
Monseigneur Cholet, à cette réaction de Boutembo, il y a aussi Dieudonné Polyvalent qui ajoute, et je le lis rapidement pour vous, la Senko n'a pas reçu mandat de la part de la population pour parler en son nom. Le peuple est libre de s'exprimer sur le changement ou non de la Constitution à travers le référendum. Monseigneur Donatien Cholet.
Merci beaucoup. Le premier intervenant, c'est M. Brandré, c'est les catholiques. Parce que quand le pape est venu ici, vous avez entendu son discours, quand il était adressé aux politiques, aux dirigeants, ce n'était pas pour prier. Hein. Et puis l'actuel pape vient de sortir sa toute première encyclique, Magnifique Humanitas. Il rappelle ce que l'Église a toujours dit, l'Église ne peut pas rester indifférente face au défi de son temps, surtout là où la population souffre. Est-ce que la population congolaise ne souffre pas? Donc l'Église est dans sa mission prophétique, mais il ne fait pas la politique. Aucun évêque ne sera candidat, député ou ministre, encore moins président de la République. Et dire que la jeunesse catholique s'oppose, ce n'est pas vrai. Il y a eu un faux document d'ailleurs, écrit le 26 mai, alors que le communiqué de la message de la Tenko au mois de juin. Et puis la situation de Kananga, je ne vais pas entrer là-dedans, c'est particulier. Pour ceux qui savent le contour, ils comprendront que la région ailleurs. Alors, question de mandat, je crois que ici, l'Église reconnaît l'autonomie politique.
La raison que vous dites qu'elle est ailleurs, Monseigneur.
L'Église a aussi son autonomie, oui.
La raison que vous dites qu'elle est ailleurs, elle serait quoi, par exemple, Monseigneur, si ce n'est pas un secret, ce serait bien que la population puisse aussi s'inscrire.
Notez, les évêques ont dit quelque chose d'important dans leur message. Hein. Les tensions politiques chez nous maintenant révèlent des connotations ethniques et tribales. Alors, il y a combien de diocèses? Alors, il y a eu deux réactions qui sont une de ce que les évêques ont dit. Il y a les non-kassaïens qui n'ont vu que, comme absent, l'évêque de Moudjimaï et celui de Nuevo. Alors qu'il y avait aussi des évêques d'autres diocèses qui avaient des empêchements qui n'étaient pas là. Pourquoi seulement mettre les deux en exergue? Deux. Alors, et puis ceux de Kassaï qui ont réagi contre l'archevêque de Kananga. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réagi par rapport à d'autres évêques aussi de Kassaï qui ont signé? Cherchez vous-même la réponse, vous allez découvrir. Alors, la question du mandat...
Oui, allez-y.
La question du mandat, écoutez, ils sont dans leur posture pastorale pour prêcher, pour dénoncer, pour assurer leur mission prophétique. Ils n'ont pas besoin du mandat de qui que ce soit. Leur mandat est détenu de Jésus-Christ. Mais l'Église a toujours de respecter la liberté des uns des autres.
Merci, Monseigneur Donatien Cholet. Ce débat continue. Nous allons continuer à distribuer la parole. Et pour le député Amissi Makutano, député national et président de la Ligue des Jeunes de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation, pour vous, nous allons écouter et recevoir Héritier de Bukavu.
Bonsoir Radio Kapi, c'est Héritier Zahinda depuis la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Nous tenons à saluer la position de la CENCO vis-à-vis de sa prise de position par rapport à la question du changement de la constitution. Ça prouve à suffisance qu'elle est une église au milieu du village. Je me rappelle avant l'IDPS au pouvoir, la CENCO avait refusé la même question du changement de la constitution au gouvernement sautant de Kabila. Quelques questions alors. Qu'est-ce qui motive alors l'IDPS via les propos de ces cadres de militants à s'acharner aux prêtres? Or, à l'opposition, les mêmes prêtres les avaient accompagnés. Hier, à l'opposition, ils avaient un langage simple et courtois et avaient promis tant de choses. Mais une fois au pouvoir, l'IDPS devient une honte de la démocratie congolaise. C'est pourquoi je suggère à l'IDPS de revenir d'abord à la raison et suivre le conseil des prêtres de la CENCO, sinon ils seront surpris. Les peuples gagnent toujours.
Abis Makoutano.
Merci beaucoup. Je crois qu'il ne s'est pas écarté de ce qu'on disait depuis. La CENCO n'a pris qu'une position qui la concerne elle seule. Et quand notre collègue de Goma, il parle de l'acharnement. Il n'y a pas de l'acharnement. La CENCO s'est invitée sur le terrain politique. Et à cela, tout ce qu'elle dit ne constitue pas une vérité. Il y a aussi des contre-vérités qu'il faut rencontrer cette CENCO et ramener la CENCO à l'ordre. Parce que nous avons l'État. Et c'est l'État qui a la responsabilité de gérer la République. Mais bien entendu, si nous prenons l'exemple des autres pays aussi, il y a l'Église catholique. Mais la manière dont la CENCO se prend la tête en République démocratique du Congo, ça reste à désirer. Et par là, nous, en tant que population, nous ne pouvons qu'interpeller l'État de pouvoir prendre ses responsabilités et de rappeler la CENCO à l'ordre. Parce que ce point qui est sur la table, sur la problématique du changement ou de révision de la Constitution, ça concerne l'ensemble de la population congolaise. Pas une couche. Mais à cela, il a reconnu, parce que dans leur message, vous comprenez qu'ils ont interpellé le président de la République. En oubliant que le président de la République, c'est aussi une institution, président de la République. Mais il est reconnu comme les garants de la nation. Mais s'il veut trancher une telle question, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à l'ensemble de la population de pouvoir trancher. Et aussi, il devait reconnaître ça dans leurs documents. Au lieu de nous imposer quelque chose où ils se font déjà des idées, et voilà comment il a essayé un peu d'étayer là-bas.
Vous dites, si vous prenez
Mujimai, Kananga. Non. Un prélat ne peut pas parler ça. C'est gravissime.
Non, mais il a montré.
Ce sont des réactions des Congolais.
Il a montré des exemples de là où il y a une contestation de leur message en indiquant justement, dans notre reportage, nous-mêmes nous avons mentionné qu'il y a eu des jeunes à Kananga par exemple qui ont.
Ce sont des Congolais. Ce n'est pas leur appartenance tribale ou leur ethnie, non. Ce sont des Congolais qui se sont manifestés. Quand ils ont pris le courage de se réunir, de sortir un document ou un communiqué, et ils devraient s'attendre à une réaction.
Mais Amis Magoutano, pourquoi on a l'impression que leur message vous dérange, vous met mal à l'aise, alors que, comme vous venez de dire justement, si vous leur demandez d'attendre le moment où la population va se prononcer, vous aussi, vous devriez être calme et considérer qu'ils donnent leur position, mais au moment de décider, l'autorité ou alors la partie qui est censée décider, c'est-à-dire la population, se prononcera probablement en votre faveur.
Non, il faut comprendre que leur comportement aussi ne rassure pas aussi la population, ça il faut qu'on se le dise. Nous avons tous assisté ici, ils ont commencé avec cette histoire des pactes pour la paix là. Où est-ce qu'ils en sont?
C'était une idée, c'était leur proposition.
Ils sont où? Parce qu'il faut toujours évaluer avant d'affronter une manche. Vous comprenez? Ils sont où?
Il semble que la majorité ne veut pas de ce projet.
Ce n'est pas la majorité, parce que quand ils ont commencé leur initiative, la majorité n'était pas dedans. Ils ont parlé du dialogue. Ils ont été reçus par le président de la République combien de fois? Mais vous allez le voir là-bas, le visage furieux.
Combien de fois, selon
plusieurs fois.
La population veut
non, plusieurs, même quatre fois, même cinq fois, à chaque fois qu'ils avaient besoin qu'ils soient rencontrés par le président, et le président leur donnait cette opportunité.
Et qu'est-ce que le président leur a dit alors?
Non, ils savent ce que le président leur disait. Mais regardez le visage de nos prélats quand ils sont devant le président de la République.
C'est comment?
C'est comme ils ont des problèmes. Mais quand ils quittent ici, ils sont allés à Goma. Il faut voir comment ils rigolaient avec les Kagame, comment ils rigolaient avec les Routous là. Ceux qui sont contre la République démocratique du Congo. Pour ça, le Congolais voit.
Est-ce que ce n'est pas, pas le respect d'être devant le président qui fait qu'on reste un peu sérieux et quand on est avec d'autres catégories, on est un peu plus détendu?
Ah, quel sérieux! Le président de la République, c'est leur fils. N'oubliez pas que le président de la République est fils d'un évêque qui est paix à son âme. Vous comprenez? Mais à ces respects-là, ils doivent se sentir comme les parents qui sont devant leur fils. Mais le figure furieux que nous avons constaté plusieurs fois quand ils ont été reçus par le président de la République ne rassure pas. Et quand ils parlent du dialogue, quel dialogue? Vous croyez qu'organiser le dialogue dans ces pays, avec tout ce que réclame Kagame, avec ses velléités expansionnistes, il veut avoir le Congo. Et il a dit d'ailleurs, j'ai Goma, j'ai Bukavu, j'ai mes recommandations. Vous devez répondre dans mes préoccupations avant que je vous le rende.
Là, vous parlez de Kagame.
C'est Kagame qui dit.
Merci.
Et tout, l'armée que nous voyons à l'est là-bas, ce sont les Rwandais. Mais nos prélats ne voient pas ça. Dans leur communiqué, ils ne condamnent rien. Ils ne citent pas même le pays agresseur qui fait du mal à nos familles. Et je crois que Il n'y a pas vraiment crédit.
Amis, c'est Magoudano, l'émission continue. Peut-être qu'avant la fin de cette émission, Monseigneur Donatien Cholet pourra dire peut-être un mot sur le projet du dialogue. Christian Molek, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Pour vous, nous allons prendre cet auditeur de Kalemie.
Maître Ali Mouchaba Joseph Cicéron, depuis la ville de Kalemie, dans la province du Tanganyika. La sortie médiatique de la CENCO vaut son pesant d'or dans la mesure où elle met les présidents de la République et les parlements devant un fait accompli, car le processus référendaire est aux antipodes de l'ordonnancement juridique en vigueur en RDC, étant donné que la loi référendaire ne peut s'envisager que dans ces trois contextes. La cession ou l'adjonction du territoire, la révision constitutionnelle, ainsi que les transferts de la capitale Kinshasa à une autre ville. En effet, donner à la loi référendaire les pouvoirs de revoir même le mandat du président de la République rentre dans ce que nous pouvons appeler la fraude à la constitution. En outre, la CENCO est une institution d'appui à la démocratie ayant joué un rôle important de protection des intérêts du peuple.
Et à côté de ce message, il y a Achille Omar qui dit, je le lis très rapidement, à destination de Christian Moleka, je suis en parfait désaccord de tout argument avancé par les évêques catholiques. Leur position actuelle exprime tout simplement la frustration du rejet de leur démarche de la tenue du dialogue dont les évêques voulaient se prendre pour organisateur. Je le lis tel qu'il a écrit. C'est logique qu'elle se prononce, la CENCO, sur la question démocratiquement. Cependant, elle n'a pas justifié de manière convaincante l'ossature de sa décision, étant donné que le peuple qui est souverain primaire soutiendra cette initiative ensemble avec les institutions légitimes établies. Je crois que la CENCO sera un observateur du changement et non acteur de la nouvelle constitution comme en 2006.
Bon, les deux points de vue s'opposent, c'est un peu à l'image de la polarité que nous connaissons aujourd'hui, entre ceux qui pensent qu'il faut et ceux qui pensent le contraire. Ce qui était certainement attendu, c'était la position de l'Église catholique. On connaissait la position de certains évêques sur la question, l'Église SCC s'était prononcée, et donc tout le monde attendait que l'Église catholique prenne enfin sa position. Au-delà de cette position, tout le monde attendait également son positionnement dans le jeu politique à venir. On sait le rôle que l'Église a joué hier dans la mobilisation protestataire dans la ville de Kinshasa autour de la même question, et beaucoup se questionnaient sur la capacité de l'Église à sortir de ce rôle de médiation et à développer une approche protestataire qui, comme en 2016, donnerait plus de force à l'opposition. C'est ça l'enjeu de la sortie médiatique de l'Église, et c'est tout à fait normal qu'elle crispe. Parce que quand on connaît le rapport de force qu'il y a dans la ville aujourd'hui, quand on connaît la capacité de l'opposition à mobiliser, et une église qui se positionne de manière très tranchée, peut donner des forces à l'opposition, ou au contraire, être un spectateur d'un nouveau rapport de force. Et donc, l'enjeu de la position de l'église, c'est le rapport de force qu'il apporte, pas que au niveau de la rue, mais également au niveau diplomatique. N'oubliez jamais que la capacité de l'église, c'est pas seulement au niveau interne, mais c'est également apporter une voix internationale. Et donc, sur une question aussi clivante, il est tout à fait logique que, que les opinions se diverses, que ce soit Joseph Cicéron à Calémy ou Harold Omar Tchimanga, eh bien, elle ne sont que l'expression de cette forme de polarité que nous avons aujourd'hui, une polarité qui malheureusement va s'accentuer parce que la position de l'Église va également crisper et cliver davantage la population congolaise.
Et qu'est-ce que vous pensez, selon vous, qui pourrait concilier les différents avis chrétiens, Moleka, dialogue entre Congolais et donc cette émission pédagogique, et à un moment donné, nous devons nous orienter vers les conclusions. Selon vous, Christian Moleka, les deux parties semblent ne pas se rapprocher pour le moment. Qu'est-ce qui peut être fait pour que, si le rapprochement n'est pas brutal, immédiat, tout de suite, qu'on s'oriente le plus rapidement possible vers un rapprochement?
Je ne voudrais pas être un prophète de malheur, mais en théorie des jeux, on parle de ce qu'on appelle le jeu à somme nulle. Les politologues le savent. Lorsque vous avez des points de vue totalement incompatibles, c'est comme si vous avez des parallèles du rail. Et donc, avec un horizon où on ne pourra difficilement converger. Et le schéma aujourd'hui de la radicalité, de la polarité qui se met en place, eh bien, nous met en face d'un jeu à somme nulle, où je gagne tout, où tu perds tout. Et dans une logique comme ça, le schéma le scénario le plus probable, c'est la confrontation. Confrontation et rapport de force, un peu à l'image de 2016, à moins qu'il y ait une lucidité des acteurs, de toutes les parties, lucidité, une sortie de cette cité où tout le monde, de manière pragmatique, se dise, voilà, le coût vaut plus que l'enjeu. Parce qu'il y a toujours un rapport entre l'enjeu et le coût. Est-ce que le coût mérite l'enjeu? Est-ce que le coup peut-être de voir demain un pays beaucoup plus fragilisé, une cohésion intérieure divisée, un front intérieur qui va s'ajouter à un front militaire que nous avons, est-ce que ce coup mérite l'enjeu? Cette lucidité-là, si on ne l'atteint pas, eh bien, on aura vers une logique de confrontation. Et comme chaque parti aujourd'hui, personne n'avait descendre son bouclier, eh bien, le schéma qui se dessine, c'est la confrontation.
Alors, on va voir, le débat va toujours, entre autres, rester le débat du refus qu'un président puisse faire un mandat supplémentaire qui n'est pas prévu par la Constitution qui est encore en cours en ce moment. Mais en parlant de la Constitution elle-même, Christian Moleka, nous avons vu les acteurs politiques congolais qui aujourd'hui, pour certains, se retrouvent dans l'opposition. Mais à un moment, c'est des personnes qui avaient pris des initiatives pour montrer que la Constitution d'aujourd'hui mérite débat, qui avait la possibilité de modifier des choses, ou alors si la population, si la RDC, l'opinion globale décide de changer, il y a cette possibilité de changer. Est-ce que selon vous, cette constitution mérite un débat autour des modifications, et est-ce qu'un débat est possible autour d'un changement?
On ne peut pas empêcher aux gens de réfléchir. Le débat, on l'a toujours dans une démocratie. C'est tant est que ce débat vise à stabiliser, à couvrir un cadre républicain. Tout à fait logique. Le vrai débat qu'on devrait avoir, c'est est-ce que la Constitution, telle qu'elle est élaborée aujourd'hui, offre des possibilités de changement? Les changements constitutionnels, les Makuta Noir a donné des exemples qui sont assez patents. Les changements constitutionnels, c'est toujours une crise politique qui remet en question l'ordre et éventuellement, le cas français le montre, ce sont les limites de l'ordre actuel liées à des crises. 45, c'est la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, c'est Vichy, c'est l'échec d'un modèle de parlementariste qui n'a pas permis à la France de faire la guerre, et c'est la fin de la guerre qui met en place un nouvel ordre politique. 57, c'est l'Algérie, c'est la guerre d'Algérie qui divise la France, et une crise politique majeure qui ramène le général de Gaulle devant. Et donc, sans crise majeure, sans soulèvement populaire, ou sans, comment je peux appeler ça, sans révolution, un changement des républiques se construit généralement sur des phases assez pointues de l'histoire politique. Mais le débat que nous avons aujourd'hui va au-delà de cette forme que je viens de répondre de l'histoire française, qu'on peut trouver ailleurs. Mais le débat aujourd'hui, c'est est-ce que le principe de l'intangibilité de la Constitution, les principes de l'intangibilité article 220, est-elle temporelle ou se limite simplement à un argument politique qu'on a vu en 2016 et qui peut être remis en question? Est-ce que le débat tel qu'on l'a eu en 2015, l'appropriation citoyenne sous le respect des 120, demeure-t-il encore un enjeu politique aujourd'hui vis-à-vis de tous les acteurs politiques? C'est un débat qu'il faudra avoir. Est-ce que nos acteurs n'ont-ils pas évolué en remettant en question les propres aspirations qu'ils ont développées hier et que la population a portées? Si ce débat est porté avec sincérité, vous verrez que ce débat, il transcende les personnes, il s'inscrit dans notre système politique, dans notre façon de concevoir le pouvoir. Je l'ai toujours dit que notre vrai défi au Congo, c'est un débat, un défi de personnification du pouvoir, un défi de l'autre tribu que je dirais de construire un système politique stable qui nous permette de dépasser les personnes. Tant que nous n'arriverons pas historiquement à construire un système politique qui dépasse les personnes, puisque au-delà du débat, la constitution et d'autres facteurs qui peuvent justifier la fin d'un mandat, il peut simplement avoir des raisons naturelles, on peut tomber malade et vous éloigner du pouvoir. On l'a vu avec, avec Bongo au Gabon. Et donc il y a une autre façon de concevoir le rapport au pouvoir. Et le rapport au pouvoir doit être conçu en tant que système. Un système politique suppose qu'il dépasse des individus. Si aujourd'hui nous célébrons les modèles chinois, nous célébrons les modèles ailleurs, c'est parce qu'ailleurs on a su développer des systèmes politiques qui dépassent les personnes et qui peuvent s'inscrire dans la durée. Tant que nous, Congo, nous continuerons à faire le débat autour des individus, autour des personnes, ou à ramener le débat au niveau personnel, eh bien nous sommes en train d'asseoir malheureusement un système de stabilité. C'est vrai qu'il y a un vrai défi dans la sous-région. Nous sommes l'un de, on peut le dire, c'est l'un des rares îlots démocratiques face à un environnement militarisé autour de nous, notamment le président militaire. Et donc, il y a soit une forme de pouvoir dans la longévité. Vous prenez Museveni, vous prenez Kagame, vous prenez Sassou, vous prenez. On peut compter ces pays-là qui sont des modèles de pouvoir militaire qui s'installent dans la durée. Et qui trouvaient en Congo, tout le monde a salué l'alternance comme une forme d'îlot de stabilité qui pouvait servir des références à la sous-région. Et aujourd'hui, presque dix ans après, le débat, c'est est-ce que ce modèle d'alternance que nous avons tous salué comme modèle de la sous-région mérite-t-elle d'être consolidé ou non? Ou est-ce que les tares de la sous-région vont nous replonger, nous également, dans un modèle d'instabilité ou de pouvoir fort qui tiennent compte des impératifs de la région? Ce débat-là devrait nous questionner, nous Congolais, pour voir qu'est-ce que nous voulons comme pays, comme nation, qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons la stabilité à travers des institutions stables qui peuvent être pérennisées au-delà des personnes, ou nous voulons construire à nouveau des pouvoirs forts autour des personnes? Nous avons eu des pouvoirs forts autour de Mobutu, nous avons célébré des hommes forts, on a parlé de Chinarambo. Est-ce que ce modèle du pouvoir fort est un modèle qui nous donne stabilité et qui nous permet d'aborder le développement?
Christian Moleka, et ce sera votre dernier mot, vous avez parlé d'un débat sincère sur cette constitution, changement ou modification. Pour qu'il soit sincère, selon vous, il faut qu'il soit en dehors d'un mandat présidentiel ou il peut se faire dans un mandat.
Le président aurait par exemple gagné en 2023 d'inscrire dans son discours de campagne le changement constitutionnel. Il serait venu à ce débat avec beaucoup plus de légitimité en disant voilà, le peuple m'a donné ce mandat avec mission de le changer. Le fait que cette question n'a pas été ramenée à cette échelle politique, eh bien, apparaît comme une forme de cadre qu'on sort de la poche au dernier moment pour se maintenir au pouvoir. Ou alors au modèle béninois où on changerait les textes en disant voilà, mais ce texte ne s'appliquera pas à un black talk qui le met en œuvre et donc nous donnons à la nation, à la postérité un texte mais qui ne nous concerne pas nous. Ces genres de débats, chez nous on ne l'a pas. On a des débats qui malheureusement tournent autour des individus. Et les débats malheureusement c'est est-ce qu'on le maintient lui ou non. Et puisque le débat c'est on le maintient lui ou non et qu'il ne s'agit pas d'un système politique à mettre en œuvre, eh bien la polarité restera la personne de Tshisekedi qui doit se maintenir ou non au pouvoir. Malheureusement c'est le débat chez nous.
Merci Christian Moleka. Koutano, député national et président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes élu de Kinshasa. L'opinion qui n'est pas d'accord avec vous vous soupçonne de vouloir donner un troisième mandat qui n'est pas constitutionnel selon la constitution en cours et donc pas acceptable. Est-ce que cette question, la majorité actuelle peut la laisser pour plus tard, pour d'autres mandats plus tard, pour peut-être des dirigeants qui vont venir, ou bien pour vous c'est vital de le faire maintenant et aujourd'hui, et ce serait pour quelles raisons?
Bon, merci beaucoup monsieur les journalistes. Premièrement, je dois rappeler que ce que vous venez d'évoquer, c'est un point de vue de certains, d'un Congolais, que nous devons prendre en compte. Mais dire que cette question, est-ce que nous pouvons la laisser ou faire quoi que ce soit, je suis un peu perdu parce que...
Pour ne pas donner l'impression de juge et parti.
Parce que beaucoup plus, nous revenons toujours sur cette problématique de la loi référendaire. N'oubliez pas qu'à l'article 5, ce n'est pas l'UDPS qui avait créé cette constitution ou cet article. C'est un article qui existe depuis.
Mais l'UDPS et l'opposition d'avant avaient refusé qu'on touche à cette constitution.
Non, oui, bien entendu.
Qu'est-ce qui fait que subitement...
Mais il y a eu la loi de la majorité qui avait primé. Mmh. Et nous avons dit, on concède à tant que démocrate, on laisse. Mais le jour où nous-mêmes nous serons à la commande, nous devons doter la République démocratique du Congo d'une constitution digne. Nous ne cachons pas cette position.
Jusqu'ici, vous n'avez pas donné les éléments
à l'article
que le changement pourrait apporter des positifs.
Non, là, vous me posez cette question. Si vous avez voulu que je puisse vous amener les éléments, je pouvais amener avec moi. Mmh. Vous comprenez? Mais là, quand vous martelez, c'est la problématique de la loi référendaire. C'est là où je ne comprends pas l'homme congolais. Je suis un peu perdu. À l'article 5, quand on dit la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce sur quelle voie? La voie des élections et la voie du référendum. Mais pour organiser les élections, il a fallu avoir la loi électorale. Cela avait été déjà voté. Nous avons eu des élections. Mais le référendum, quelle est cette loi qui accompagne justement le processus du référendum? Ça n'existait pas. Mais un député, un collègue, qui vient avec la proposition des lois, qui est reconnu dans ses prérogatives, en tant qu'élu du peuple, c'était juste pour combler le vide juridique qui s'est trouvé sur les haies, cette conjonction de coordination qui sépare les élections et les référendums. Il fallait qu'il y ait une loi qui va accompagner la faisabilité du référendum. Point barre. C'est dans le prérogatif d'un député. Et là, nous pouvons dire que l'article 5 est maintenant complet du fait que le référendum, il y a quand même une loi qui l'accompagne sur comment nous pouvons organiser les référendums en République démocratique du Congo. Mais tout ce qui va avec, on peut faire la combinaison des articles comme le font les autres. Mais accuser que non, parce que cette loi est passée, c'est comme si le référendum n'est pas reconnu dans cette constitution qu'est défendre aujourd'hui. Moi, je pense que nous sommes quand même les respectueux des principes. Ce débat est sur la table où tout le monde peut apporter les énergies positives. J'ai aimé l'intervention de mon co-débatteur quand il a pu étayer justement les causes, hein, par rapport à la périodicité, par rapport au contexte, par rapport aussi au temps. Parce que nous ne pouvons pas être figés sur une loi ou une constitution qui n'évolue pas. J'avais posé la question, pourquoi on est passé à la 4e République, à la 5e République en France? Il n'y avait pas d'enjeu. Mais on a jugé l'opportunité de pouvoir adapter la République vis-à-vis à la réalité actuelle.
Dernière question.
Ça revient quand même pour la République démocratique du Congo.
Dernière question, en attendant qu'on écoute le président lui-même un jour sur cette question, définitivement.
Ouais.
Vous, en tant que UDPS et en tant que majorité, vous conseillerez au président de continuer dans cette optique de changement de la Constitution?
On conseillerait au président de la République qu'il est d'abord, un, les garants de la nation. Et quand on parle de la nation, c'est l'ensemble de la population congolaise, n'est-ce pas? Cette question ne réside pas à lui seul. C'est une question qui concerne le peuple congolais. Et lui étant garant de la nation, il doit poser la question à la population pour savoir le pour et le contre, la population se trouve de quel côté.
Et ça sera fait dans le référendum, c'est ça?
Je dis si c'est ça la voie, donc ça se fera ainsi. Donc c'est la population qui tranchera, ce n'est pas un groupe d'individus ou des gens qui croient avoir une parole d'évangile où tout le monde doit dire amen.
Merci.
Mais c'est la population qui doit répondre à cette question pour confirmer la thèse de l'un ou de l'autre.
Merci, Amissi Makutano. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, vous recommandez dans votre message un dialogue comme solution. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que votre proposition peut aboutir à quelque chose?
Oui, avant de répondre, permettez-moi brièvement de corriger quelques constater bien à la manipulation. J'ai entendu dire l'honorable que la CENCO a fait barrage à la constitution de 2006. C'est faux. Il est vrai que le comité permanent des évêques a sorti un message 3 semaines après la promulgation de la constitution de 2006, février, c'était au début mars, où il y avait 3 articles. L'article 7 qui félicitait les Congolais, qui saluait la maturité des Congolais qui sont allés massivement, qui ont démontré qu'ils sont capables de prendre en main la vie de leur pays. Il y a l'article 14 où la CENCO a déploré le manque de sensibilisation, l'insuffisance de sensibilisation des Congolais au contenu de la du référendum. L'article 24 a relevé deux urgences. La première urgence est de mettre en œuvre les institutions relatives à l'État fédéral, pas l'État fédéral, donc d'appliquer les institutions ici de la Constitution. Alors là, ils sont en train de spéculer, c'est la deuxième urgence. La CENCO a demandé au Parlement d'amender les articles qui posaient problème. Mais ça, la CENCO n'a jamais été contre la révision. Et puis, en se disant, la CENCO a dit clairement que c'est dans le respect des articles 218, 219, 220. Donc c'est vraiment une fausseté. Deux, quand on parle de la population, il s'agit de quelle population? La population fantôme, qui n'apparaît que pendant les élections. La population capable de voter à mille dans une chambre ou dans la forêt avec une machine à voter.
Merci, Monseigneur de l'Ancien Cholet. La communication est en train de se détériorer. Oui, allez-y, très rapidement.
Donc pour le dialogue, pacte social, on a bien construit avec le chef de l'État. Il nous a demandé de travailler ensemble avec la présidence. Nous sommes arrivés à adopter une feuille de route. On a bien aussi intégré les autres confessions religieuses. C'est la présidence qui nous a demandé de communiquer sur cet ordre de la feuille de route-là. Maintenant, c'est question de cohérence que le président donne le go. C'est ce qu'on a attendu jusque-là, c'est tout.
Merci.
Il n'avait plus de divergence dans la planification.
Merci beaucoup, Monseigneur Donatien Cholet. Merci également à Missy Makutano, tout comme à Christian Moleka, pour votre présence à cette émission. Merci à Jean-Claude Nsiala, Benjamin Mudumbi et Guy Maté pour leur soutien éditorial dans la préparation de cette émission. Dona Madimba, c'est moi la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.